sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 14 juin 2012 était reçu sous la coupole un écrivain célèbre, romancier et essayiste, de nationalité libanaise et française, Amin Malouf, élu le 23 juin 2011. Il a prononcé, comme le veut l'usage, l'éloge de son prédécesseur sur le fauteuil 29, Claude Lévi-Strauss, et il a été reçu par le discours de Jean-Christophe Ruffin. Dans l'assistance, on notait de nombreuses personnalités. Les académiciens entrent sous la coupole au son des tambours de la garde républicaine. Écoutez, grâce à Canal Académie, la retransmission intégrale de cette cérémonie.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Amin Malouf pour la lecture de son remerciement.
Mesdames et messieurs de l'Académie, il y a 25 ans, je suis entré sous cette coupole pour la première fois. Je venais de publier un roman, vous m'aviez décerné un prix et invité, comme d'autres lauréats, à la séance publique annuelle. Elle était présidée par Claude Lévi-Strauss. En tant qu'étudiant en sociologie à Beyrouth dans les années 60, j'avais lu « Du miel aux cendres », soigneusement annoté « La pensée sauvage » et participé à des débats autour de race et histoire. Votre confrère était pour moi, comme pour toute ma génération, un auteur emblématique. Et à l'entendre mentionner mon nom, puis le titre de mon roman, j'étais sur un nuage. Je n'attendais pas grand-chose de plus, et certainement pas de me retrouver un jour au milieu de vous pour prononcer son éloge dans cette solennité en faisant résonner mon accent. Après les roulements de tambour, les roulements de langue, cet accent, vous n'entendez pas souvent dans cette enceinte. Ou, pour être précis, vous ne l'entendez plus. Car vous le savez, ce léger roulement qui, dans la France d'aujourd'hui, tend à disparaître, a longtemps été la norme. N'est-ce pas ainsi que s'exprimaient la Bruyère, Racine et Richelieu, Louis XIII et Louis XIV, Mazarin, bien sûr, et avant eux, avant l'Académie, Rabelais, Ronsard et Ruteboeuf. Ce roulement ne vous vient donc pas du Liban. Il vous en revient. Mes ancêtres ne l'ont pas inventé, ils l'ont seulement conservé pour l'avoir entendu de la bouche de vos ancêtres et quelquefois aussi sur la langue de vos prédécesseurs, qui furent nombreux à nous rendre visite. Volney, Lamartine ou Barès, nombreux à consacrer des livres à nos châtelaines, à nos belles étendues sous les cèdres. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'un de ces Libanais de cœur, Ernest Renan. Renan qui écrivit sa vie de Jésus au pied du mont Liban, en 6 semaines d'une traite. Renan qui, dans une lettre, avait souhaité qu'on l'enterrât là-bas, près de Byblos, dans le caveau où repose Henriette, sa sœur bien-aimée. Renan qui fut élu en 1878 au 29e fauteuil, fauteuil qui allait être 100 ans plus tard celui de Lévi-Strauss. Souvent, l'on associe le rayonnement de la langue française à l'empire colonial. Pour le Liban, ce ne fut pas le cas. Si la France a bien été puissance mandataire au nom de la Société des Nations, ce ne fut qu'une brève parenthèse, de 1918 à 1943, tout juste 25 ans. Ce n'est pas beaucoup dans une idylle plusieurs fois centenaire. L'histoire d'amour entre ma terre natale et ma terre adoptive ne doit pas grand-chose à la conquête militaire ni à la SDN. Elle doit beaucoup, en revanche, à la diplomatie habile de François Ier. Ce fut lui qui obtint du sultan ottoman le droit de s'intéresser au destin des populations levantines. afin de protéger les chrétiens d'Orient. Telle était la version officielle. La vérité, c'est que le roi de France, en conflit avec les Habsbourg, qui dominaient l'essentiel de l'Europe et encerclaient son royaume, cherchait à desserrer l'étau, coûte que coûte. Il s'était donc résolu à conclure une alliance avec le monarque ottoman, considéré pourtant comme l'ennemi traditionnel de la chrétienté. On parle souvent du siège de Vienne par Soliman le Magnifique en 1529. On ne dit pas toujours que François Ier l'avait incité à l'entreprendre pour mettre en difficulté la maison d'Autriche. Pendant ce temps, le pape adressait au roi de France, missive sur missive, l'exhortant à conduire une croisade contre les infidèles et lui demandant des explications sur ses ambassades successives qu'il dépêchait à Constantinople. Et le roi catholique de répondre que s'il prenait langue avec la sublime porte, c'était uniquement parce qu'il avait à cœur le sort des chrétiens d'Orient. Et d'exhiber, à l'appui de ses dires, les capitulations signées par le sultan. Bel alibi. Mais c'est un peu grâce à cet alibi que nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce lieu prestigieux. Par la vertu d'un traité ambigu est née une amitié durable. Elle a eu au cours des siècles des ramifications économiques, diplomatiques, administratives et militaires. Mais elle a surtout été culturelle. Ce sont les écoles qui ont tissé les liens et c'est la langue qui les a maintenus depuis un demi-millénaire. Je ne ferai pas au grand roi l'affront de supposer que cet aspect des choses lui importait peu. Ai-je besoin de rappeler que ce fut le même François Ier qui établit par l'ordonnance de Villers-Cotterêts la primauté de la langue française dans son royaume, ouvrant ainsi la voie à la fondation par le cardinal de Richelieu de votre compagnie. Notre histoire d'amour se poursuit donc depuis le XVIe siècle. En vérité, ses origines remontent bien plus loin encore. Jacqueline de Romilly froncerait les sourcils si j'omettais de dire que les choses ont commencé avec la Grèce antique. Quand Zeus, déguisé en taureau, s'en fut enlevé sur la côte phénicienne, quelque part entre Sidon et Tyr, la princesse Europe qui allait donner son nom au continent où nous sommes. Le mythe dit aussi que le frère d'Europe, Cadmus, partit à sa recherche, apportant avec lui l'alphabet phénicien, qui devait engendrer l'alphabet grec, de même que les alphabets latins, cyrilliques, arabes, hébreux, syriaques et tant d'autres. Les mythes nous racontent ce dont l'histoire ne se souvient plus. Celui de l'enlèvement d'Europe représente à sa manière une reconnaissance de dette, la dette culturelle de la Grèce antique envers l'antique Phénicie. Cadmus, dit le poète, Cadmus, le civilisateur, avait semé les dents du dragon. Sur une terre écorchée et brûlée par le souffle du monstre, on attendait de voir pousser les hommes. Le poète que je viens de citer n'est autre que Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Votre illustre confrère était né le 28 novembre 1908. À Bruxelles, parce que son père, qui était peintre portraitiste, recevait de moins en moins de commandes en France et que des amis lui en avaient promis quelques-unes en Belgique. En ces années-là, les notables et les célébrités, clientèle habituelle des portraitistes, avaient renoncé à se faire peindre, préférant se faire photographier. Une tradition vénérable qui nous avait valu tant de chefs-d'œuvre à travers les âges était en train de devenir obsolète, victime d'une invention ingénieuse. Victime du progrès. Pendant toute l'enfance et l'adolescence de Claude Lévi-Strauss, et même bien au-delà, ses parents connaîtront la gêne. Je me souviens des angoisses qui pouvaient naître quand il n'y avait plus de commandes, racontera-t-il à 80 ans. Mon père, qui était un grand bricoleur, inventait toutes sortes de petits métiers. Pendant un temps, on se lança à la maison dans des impressions de tissus. J'ai même créé des modèles. Il y eut une autre période où mon père fabriquait des petites tables en imitation laque de style chinois. Tout était bon pour assurer les fins de mois. Cette expérience marquera Lévi-Strauss et contribuera à former son regard sur le monde. Toujours il sera attentif aux effets secondaires qui peuvent résulter du progrès. Quand d'autres s'enflammeront pour les idées nouvelles, il demeurera circonspect, qu'il s'agisse de l'art abstrait, des navettes spatiales, de la révolution informatique ou de l'entrée des femmes à l'Académie française. Une jeunesse difficile donc ? Pas vraiment. Des fins de mois difficiles, oui, mais une jeunesse plutôt heureuse. Des parents d'une grande tendresse, qui aimaient jusqu'à l'adoration leur enfant unique et qui s'aimaient aussi. Ils étaient cousins d'ailleurs, ce qui a fait dire à leur fils qu'ils n'avaient pas deux familles, l'une paternelle et l'autre maternelle, mais une seule. Son père, qui s'appelait à la naissance Raymond Lévy, avait lui-même décidé d'adjoindre à son patronyme celui de sa mère, Strauss, estimant que Lévi-Strauss ferait une belle signature au bas de ses tableaux. Son épouse et cousine s'appelait Emma Lévy. Elle était la fille du grand rabbin de Versailles, mais la célébrité parmi les ancêtres était indéniablement Isaac Strauss, arrière-grand-père de Claude. Compositeur et chef d'orchestre, il fut extrêmement populaire dans le Paris de Napoléon III. Il collabora étroitement avec Offenbach, pour lequel il écrivit le quadrille d'Orphée aux Enfers, qui demeure la musique la plus représentative de ce qu'on appelle partout dans le monde le French Cancan. La famille vivra longtemps dans la nostalgie du Second Empire et fréquentera les milieux bonapartistes. Votre confrère lui-même se souvenait d'avoir vu enfant, de mes yeux vu, disait-il, l'impératrice Eugénie. Il est vrai que la veuve de l'empereur survécut un demi-siècle à l'abdication de son époux, pour ne s'éteindre qu'en 1920. Grâce à l'illustre aïeul, la musique était omniprésente chez les Lévi-Strauss. On connaissait par cœur tout Offenbach, et à Wagner, on vouait un véritable culte. On s'intéressait également à la peinture, puisqu'en plus du père, deux des oncles en avaient fait leur profession. On parlait tout aussi souvent de littérature. L'enfant lisait déjà Dostoïevski, Conrad ou Cervantes. Et on allait au théâtre, comme à l'opéra, dès qu'on pouvait se procurer des billets bon marché, ce qui exigeait parfois de faire la queue dès l'aube et pour obtenir des places d'où l'on ne voyait même pas la scène. Le jeune Claude, qui partageait les passions artistiques de son père, était profondément affecté par la souffrance qu'il percevait chez lui. Que cet homme cultivé, talentueux, honnête, travailleur, dû peiner ainsi pour nourrir sa famille. N'y avait-il pas là une injustice et même un dysfonctionnement de la société? Il n'est pas étonnant que votre futur confrère ait caressé alors des rêves d'égalité. Son premier texte, publié à 17 ans dans une revue socialiste bruxelloise, s'intitulait « Gracchus Babeuf et le communisme ». Il n'a jamais voulu le republier, mais il en parlait volontiers. La lecture de ces 37 pages ne révèle rien d'ailleurs dont il eût pu rougir. Ce n'est pas le cri de révolte d'un adolescent, c'est une évaluation raisonnée du babouvisme, érudite, subtile, à la fois affectueuse et critique, fort bien écrite du reste, et témoignant déjà de l'admiration qu'il vouera sa vie entière à Jean-Jacques Rousseau, dont il cite dans cet article quelques passages éloquents. Il est manifestement contre les lois de la nature, qu'une poignée de gens regorge de superfluité, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire. Si Lévi-Strauss ne s'est jamais senti babouviste ni communiste, il a incontestablement été dans sa jeunesse un militant de gauche. Je me voyais très bien devenir le philosophe du Parti socialiste, admettra-t-il au soir de sa vie. L'idée de jeter un pont entre la grande tradition philosophique, Descartes, Leibniz, Kant et la pensée politique telle que Marx l'incarnait était très séduisante. Même aujourd'hui, je comprends que j'ai pu y rêver. En ces années-là, la tentation de la politique active ne se limite pas chez lui au domaine de la philosophie. À 20 ans, il devient secrétaire parlementaire d'un député socialiste. Tout en poursuivant ses études, il fréquente la Chambre, formule des questions au gouvernement, rédige des comptes rendus et des argumentaires. Il plaide, par exemple, pour la création d'un office du blé visant à protéger les paysans des fluctuations du marché. Un projet qui sera repris tel quel par le gouvernement du Front populaire. Votre futur confrère ne suspend son activité militante que lorsqu'il doit se consacrer à son agrégation de philosophie qu'il obtient en 1931. Aussitôt après, il effectue son service militaire, épouse sa première femme, Dina Dreyfus, et en guise de voyage de noces, part avec elle pour Mont-de-Marsan, où il vient d'être nommé professeur. À peine arrivé dans les Landes, il prend contact avec la section locale de la SFIO et se porte candidat aux élections cantonales. Mais sa carrière politique s'interrompt abruptement quand parti faire campagne au volant d'une 5 chevaux d'occasion qu'il conduisait sans permis, il quitte la route et finit sa course dans un fossé. Sa carrière de professeur de philosophie ne sera pas beaucoup plus longue. Au début, il trouve du plaisir à enseigner le programme. Il prépare même, en marge de ses cours, une série de conférences pour initier ses auditeurs à la littérature française contemporaine. Claudel, Mac Orland, Gide, Morand, Cocteau et les surréalistes. Mais dès la rentrée suivante, lorsqu'il prend conscience du fait qu'il devra redonner le même cours une année après l'autre, il en éprouve de l'ennui et de l'impatience. Il a 25 ans, il rêve de ciel d'azur, de terre chaude, de peuplades lointaines, et bientôt, son vœu est exaucé. Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne 1934 sur un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, l'un de ses anciens maîtres, Célestin Bouglet, alors directeur de l'école normale supérieure. Lévi-Strauss lui avait parlé, quelques années plus tôt, de certaines envies secrètes. « Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie ? Alors posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'université de São Paulo. Les faubourgs sont remplis d'Indiens, vous leur consacrerez vos week-ends, mais il faut que vous donniez votre réponse définitive avant midi. » Il dira oui et s'embarquera pour le Brésil. Mais il ne se contentera pas d'être l'un de ces ethnographes du dimanche qui observe avec condescendance les coutumes étranges et les accoutrements exotiques. D'ailleurs, le dit Indien ne se trouve plus dans les faubourgs. Les constructions les ont chassés de plus en plus loin, vers l'intérieur des terres. Il devra partir sur leurs traces. De ces populations, les Kaduveo, les Bororo, les Nambiquara, les Tupi-Kawaib, communautés frêles, apeurées, manifestement en voie d'extinction, il parlera toujours avec tendresse et de sa propre civilisation avec sévérité. Les sociétés dites arriérées ou sous-développées, telles qu'elles sont apparues quand nous avons noué des contacts avec elles au XIXe siècle, n'étaient plus que des survivances, des vestiges mutilés à la suite des bouleversements que nous-mêmes avons directement ou indirectement provoqués. Car c'est l'exploitation avide des contrées exotiques et de leurs populations qui permit au monde occidental de prendre son essor. Aux touristes qui seraient tentés de s'aventurer sur ces territoires vierges, il lancera « Abstenez-vous, réservez aux derniers sites d'Europe vos papiers gras, vos flacons indestructibles et vos boîtes de conserves éventrées. Respectez les torrents fouettés d'une jeune écume qui dévale en bondissant les gradins creusés aux flancs violets des basaltes. Ne foulez pas les mousses volcaniques. » On lui reprochera ces propos, et d'autres encore, qui semblaient dire que les Occidentaux étaient responsables des malheurs du monde et qu'ils avaient tort de placer leur civilisation au-dessus des autres. Une polémique mémorable aura lieu dans les années 50 entre lui et un autre futur membre de votre académie, Roger Caillois. Dans un article de la Nouvelle Revue française, celui-ci se moquera des universitaires européens qui, à l'instar de Claude Lévi-Strauss, ont fait le choix de l'ethnographie parce qu'un besoin irrésistible de défi les poussait à préférer la plastique primitive au portail de Chartres, le jazz à Mozart et les spasmes de la possession par les esprits auxquels ils ne croient pas, au culte d'un dieu auquel ils ne croient pas davantage, mais qui a le tort d'être celui de leur père et celui auquel ils ont honte d'avoir cru. Lévi-Strauss lui répondra sans ménagement. Diogène prouvait le mouvement en marchant, M. Caillois se couche pour ne pas le voir. Il espère ainsi protéger contre toute menace sa contemplation béate d'une civilisation, la sienne, à laquelle sa conscience n'a rien à reprocher. Si Lévi-Strauss avait, quant à lui, quelques reproches à faire à cette même civilisation, il n'était pas pour autant dans le dénigrement de soi. Il vénérait la culture de l'Occident, de Wagner à Stravinsky, de Dürer à Poussin et de Montaigne à Ferdinand de Saussure, sans même exclure Gobineau. Surtout, il avait une dévotion constante pour son pays, la France, et pour sa langue, la langue de Chateaubriand, qu'il préférait à tout autre. Cependant, il proclamait l'égale dignité de toutes les civilisations humaines. L'égalité n'est jamais autre chose qu'une pétition de principe. Il va de soi que tous les hommes ne sont pas nés égaux et que toutes les civilisations ne sont pas égales. Mais à l'instant où l'on renonce à cette pétition de principe, à l'instant où on légitime l'inégalité, on s'engage sur la voie de la barbarie. La question n'est pas de savoir si l'art pictural des Bororo est comparable ou pas à celui des Italiens de la Renaissance. Sur ce point, vous et moi, et Roger Caillois et Claude Lévi-Strauss, serions probablement tombés d'accord. La question n'est pas non plus celle de savoir si l'apport de l'Occident à la civilisation humaine a été plus ou moins significatif que celui des tribus amazoniennes. L'histoire des 5 derniers siècles ne nous laisse pas beaucoup de doutes à ce sujet. Mais l'histoire nous apprend aussi que ceux qui proclament avec le plus de virulence la supériorité de l'Occident sont parfois ceux qui trahissent de la pire manière les valeurs essentielles de sa civilisation. Pour un homme comme Lévi-Strauss, qui avait 30 ans lors de la nuit de cristal, il était difficile de croire que la frontière entre la civilisation et la barbarie était celle qui séparait les Européens des Nambikwara. S'il y a primauté de l'Occident, nous dit-il, elle doit s'exercer dans la décence et dans le respect des plus faibles. Ce qui n'exclut ni la liberté de critique, ni le discernement. Il n'était pas dans le politiquement correct. Pour certaines traditions, il éprouvait de la sympathie, pour d'autres, beaucoup moins. Comme il ne cherchait pas à plaire, il ne se gênait pas pour exprimer ce qu'il pensait et ce qu'il ressentait, laissant aux autres le soin d'interpréter. Il se fera attaquer à sa droite pour avoir dit qu'il fallait s'ouvrir à la diversité du monde, et il se fera attaquer à sa gauche pour avoir dit qu'une société désireuse de préserver sa particularité devait parfois se montrer imperméable aux influences venues d'ailleurs. Au retour d'une mission effectuée au Pakistan, à la demande de l'UNESCO, il aura des paroles très dures pour ces musulmans qui se vantent de professer les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de tolérance et qui perdent aussitôt tout leur crédit en affirmant qu'ils sont les seuls à les pratiquer. Avant d'ajouter, ce malaise ressenti au voisinage de l'islam, je n'en connais que trop les raisons. Je retrouve en lui l'univers d'où je viens. L'islam, c'est l'Occident de l'Orient. Vis-à-vis des peuples et des cultures encore placées sous notre dépendance, nous sommes prisonniers de la même contradiction dont souffre l'islam en présence de ses protégés et du reste du monde. Nous ne concevons pas que des principes qui furent féconds pour assurer notre propre épanouissement ne soient pas vénérés par les autres. Vous comprendrez qu'avec de tels propos, votre illustre confrère se soit fait quelques ennemis, tant en Occident que dans le monde musulman. Il s'en fera aussi dans le monde juif, lorsqu'il répondra à un journaliste « Je me sens concerné par le sort d'Israël. » De la même façon qu'un Parisien, conscient de ses origines bretonnes, pourrait se sentir concerné par ce qui se passe en Irlande. Ce sont des cousins éloignés. Lévi-Strauss, rapporte l'un de ses anciens étudiants, se refusait systématiquement à parler au nom de qui que ce soit, sinon quelquefois de l'espèce humaine. Il ne fallait pas tenter de l'enfermer dans les limites d'une nation, d'une communauté, d'une civilisation, ni d'une doctrine, fût-elle issue de ses propres travaux, ni d'une discipline. Anthropologue, oui, sans doute, à condition de préciser que l'objet de sa recherche, ce n'était pas l'homme primitif, c'était tout simplement l'homme. Il est extrêmement difficile, disait-il, pour l'anthropologue d'appeler un mythe quand il le rencontre dans sa propre société, alors qu'il n'a aucun mal à l'identifier quand il l'observe chez des tribus étranges. Il a donc besoin de ce miroir lointain pour contempler sa propre société telle qu'elle est et telle qu'elle ne voudrait pas qu'on la voie. Nous qui vivons dans des pays développés, ne sommes-nous pas persuadés que notre vision du passé est régie par la connaissance historique Alors que chez les peuplades primitives et les régies par les mythes, Lévi-Strauss nous invitait à plus de modestie. Ce que les mythes font pour les sociétés sans écriture, légitimer un ordre social et une conception du monde, expliquer ce que les choses sont par ce qu'elles furent, tel est aussi le rôle que nos civilisations prêtent à l'histoire. Et il se plaisait à ajouter que rien ne ressemble autant à la pensée mythique que l'idéologie politique. Son observation de l'être humain, votre confrère ne voulait pas la fonder seulement sur des idéaux, mais sur une démarche scientifique. Quand on parle de sciences humaines ou de sciences sociales, c'est une imposture, disait-il parfois, avec son sens de la provocation tranquille. Son ambition était justement de jeter les bases d'une science de l'homme qui soit une véritable science du vivant, au même titre que la biologie ou la botanique, avec une fiabilité comparable. Par quels moyens, au commencement de sa carrière, il ne trouvait pas la solution. Il y avait bien chez lui quelques intuitions, certainement aussi une disposition d'esprit, mais il ne voyait pas encore comment s'y prendre. En 1939, une page de sa vie se tourne. Il quitte définitivement le Brésil et se sépare de sa première femme, Dina. Peu après son retour en France, il est nommé professeur au prestigieux lycée Henri IV. Mais à la rentrée de septembre, c'est déjà la guerre. Il est appelé sous les drapeaux et envoyé au front sur la ligne Maginot. Il connaît alors l'épreuve douloureuse que vivent tous les Français de sa génération, l'attente, la confusion, la débâcle, l'humiliation. Après de longues semaines d'errance, son régiment s'échoue à Montpellier. On est en août 40, le soldat Lévi-Strauss fait le mur pour aller demander à l'administration la permission de rejoindre le lycée parisien où il avait été nommé. Le fonctionnaire qui le reçoit le dévisage avec incrédulité. « Vu le nom que vous portez, lui dit-il, je ne prendrai pas la responsabilité de vous envoyer à Paris. » Jusque-là, admettra votre confrère quelques années plus tard, je n'avais aucune conscience du danger. À vrai dire, il n'avait rien prévu de tout cela. Ni la guerre, ni la débâcle, ni les persécutions à venir. Tout ce qui arrivait le surprenait et il jugera très sévèrement son absence de perspicacité. « Quand on s'est trompé si gravement, dira-t-il, il n'y a qu'une conclusion à tirer, c'est qu'on n'a pas la tête politique. On ne se mêle plus de donner des leçons. De fait, il renoncera du jour au lendemain à toute activité militante. Et si la préoccupation politique ne quittera jamais son esprit, elle s'exprimera désormais par d'autres voies. » Son erreur était celle de nombreux intellectuels de gauche que la Première Guerre mondiale avait traumatisés. Il ne s'était pas consolé de voir les prolétaires de tous les pays s'entretuer au lieu de s'unir. Et ils avaient envie de croire que les peuples d'Europe allaient éviter une seconde hécatombe. Une attitude sans doute généreuse, mais qui les avait conduits à sous-estimer les nouveaux périls et à réagir aux événements avec un temps de retard. Si Lévi-Strauss se résigne à ne pas regagner Paris, il se refuse encore à quitter la France. Il insiste pour être affecté à un lycée de la zone dite libre. Et c'est seulement en octobre 40, quand le gouvernement de Vichy décide d'exclure tous les Juifs de l'éducation nationale, qu'il envisage de s'expatrier. En ces années sombres, la Fondation Rockefeller était en train de mettre sur pied un plan pour le sauvetage d'une centaine de savants européens menacés par l'expansion du nazisme. Deux collègues de Lévi-Strauss, Alfred Métraux et Robert Lowy, réussissent à le faire inclure dans la liste. Et l'une de ses tantes maternelles, qui vit aux États-Unis, l'aide à obtenir un visa. Il finit par embarquer à Madrid, à Marseille, en février 41, sur un paquebot où se trouve également André Breton, qu'il reconnaîtra lors d'une escale au Maroc et qui deviendra un ami. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire des surréalistes qu'il parvient à louer un studio à Greenwich Village. Puis d'autres exilés lui obtiennent un poste d'enseignant à la New School of Social Research, dont la direction lui conseille vivement de se faire appeler Claude L. Strauss pour éviter toute confusion avec une certaine marque de pantalon bleu. Bien des années plus tard, votre confrère devenu célèbre se rendra en visite aux États-Unis, ayant fait une réservation sous son vrai nom dans un restaurant de Californie. Il s'entendra demander The books or the pants? Et il trouvera plutôt flatteur qu'un serveur nord-américain puisse désormais connaître l'auteur des livres, pas seulement le fabricant de jeans. Lors de son premier séjour à New York, la chose eût été impensable. Claude Lévi-Strauss était encore totalement inconnu, en dehors d'un tout petit cercle. Mais ses années d'expatriation forcée allaient lui permettre de côtoyer des chercheurs de haut niveau, venus de toute l'Europe et appartenant à diverses disciplines. C'est là que commencera à prendre forme la méthode qui marquera son itinéraire scientifique et qui fera sa renommée. Grâce à ses compagnons d'exil, et plus particulièrement à deux d'entre eux, l'ethnologue allemand Franz Boas et le linguiste russe Roman Jakobson, Lévi-Strauss aura ce qu'il faut bien appeler une révélation. Lui qui avait toujours caressé le rêve de relier les sciences humaines aux sciences exactes, il découvre au fil des lectures et des conversations qu'entre ces deux domaines de la connaissance, il existe déjà une passerelle, le langage. Celui-ci n'est-il pas à la base de toute pensée, de toute expression, de toute culture comme de toute vie sociale? Or, les recherches modernes en linguistique tendent à démontrer que les lois du langage fonctionnent au niveau inconscient, en dehors du contrôle des sujets parlants, et qu'on pourrait, de ce fait, les soumettre à une étude scientifique rigoureuse. Est-ce que les lois qui régissent les liens de parenté ne seraient pas fondées, elles aussi, sur des prédispositions mentales innées à l'homme et antérieures à toute société particulière comme à toute civilisation? Et les mythes, se demande-t-il, est-ce l'homme qui les propage ou bien est-il seulement le vecteur involontaire de leur propagation? La piste est séduisante. Lévi-Strauss s'y engage, avec audace et ingéniosité, avec persévérance. Son outil d'investigation, il l'élabore lui aussi à partir de la linguistique moderne. Dans une langue, un son n'a pas de signification par lui-même. C'est en combinant les sons, en les juxtaposant et surtout en les opposant les uns aux autres, suivant le système ou la structure de chaque langue, que l'on obtient une signification. Ce qui permet de construire, avec un nombre limité de sons, une infinité de mots et d'innombrables langues. Lévi-Strauss se demande, là encore, si on ne pourrait pas appliquer cette approche à d'autres domaines, en remplaçant les sons par d'autres éléments plus complexes. Son ambition va loin. L'ensemble des coutumes d'un peuple forme des systèmes, écrira-t-il. Je suis persuadé que les sociétés humaines, comme les individus, dans leur jeu, leur rêve ou leur délire, ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qu'il serait possible de reconstituer. En faisant l'inventaire de toutes les coutumes observées, de toutes celles imaginées dans les mythes, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique, comme celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes, réelles ou simplement possibles, apparaîtraient groupées en familles et où nous n'aurions plus qu'à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées. L'entreprise est titanesque, mais elle ne l'effraie pas. Il va s'y atteler jusqu'à la fin de sa vie. Comme Darwin, ou comme cet autre savant hors du commun qui se trouvait parmi vous au XVIIIe siècle, Buffon. Mais en s'attaquant à des objets d'étude bien plus insaisissables. Au lieu des espèces animales, des volatiles ou des minéraux, Lévi-Strauss va répertorier et classifier les mythes, les masques, les symboles, les pratiques alimentaires, les comportements sociaux, en commençant par les lois qui gouvernent le mariage. Après les avoir étudiées sur le terrain au Brésil, il approfondit et élargit considérablement sa recherche grâce aux innombrables documents qu'il trouve dans les bibliothèques américaines. Bien que passionné par ses travaux, il souffre d'être en exil. Son pays lui manque. Dès que lui parviennent les nouvelles du débarquement en Normandie, il demande à être rapatrié. Il traverse l'Atlantique dans un convoi de la marine alliée et rejoint Paris en janvier 1945, à bord d'un camion militaire. Il retrouve ses parents dans leur appartement du 16e arrondissement, rue Poussin. On leur a tout volé, même leur lit, et la santé de son père s'est détériorée à cause des privations. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. L'intention de votre confrère est de demeurer en France et de chercher un poste dans l'enseignement. Mais l'un de ses meilleurs amis lui fait changer d'avis. « Ce serait dommage, lui dit-il, qu'il interrompe ses recherches avant d'avoir terminé son travail si prometteur sur les systèmes de parenté. Il le persuade de repartir aussitôt pour New York et réussit à le faire nommer conseiller culturel auprès de l'ambassade de France. Si Lévi-Strauss retraverse l'Atlantique avec un pincement au cœur, jamais il ne regrettera de s'être rallié à l'opinion judicieuse de son ami. Cet ami, je m'en voudrais de ne pas mentionner son nom, parce que son intervention a été essentielle dans l'itinéraire de votre confrère, mais également, je l'avoue, pour une autre raison. Il se fait que ce fidèle ami de Lévi-Strauss était aussi un fidèle ami du Liban, Henri Seyrig. En France, il est un peu oublié de nos jours. On se souvient mieux de sa fille, l'émouvante héroïne des films d'Alain René et de François Truffaut, Delphine Seyrig, née à Beyrouth en 1932, disparue prématurément en 1990. Henri, son père, éminent archéologue, membre de l'Institut, avait fait pratiquement toute sa carrière au Liban, son pays adoptif. Dès 1929, il s'y était établi pour diriger le service des antiquités créé par la puissance mandataire. Il l'avait quitté pendant la guerre pour se mettre au service du général de Gaulle, qu'il avait chargé de diverses missions en Amérique latine et lui avait demandé de s'occuper des services culturels de la France combattante aux États-Unis. À la fin de la guerre, Seyrig était impatient de retrouver le Liban, qui avait entre-temps proclamé son indépendance. Dès qu'il réussit à persuader Lévi-Strauss de le remplacer à New York, il partit fonder à Beyrouth l'Institut français d'archéologie, qu'il allait diriger pendant plus de 20 ans. Même quand André Malraux le nommera en 1960 directeur des musées de France, il refusera d'abandonner son autre poste, faisant constamment la navette entre les deux pays qu'il aimait. Henri Seyrig demeure dans la mémoire des Libanais, et même incidemment dans celle de mes proches, comme l'archétype de ce qu'il y a de plus noble et de plus généreux en France. Lévi-Strauss retourne donc à New York au lendemain de la libération. Peu après, il épouse Rosemarie Ulmo, qui sera la mère de son premier fils, Laurent. Il s'acquitte consciencieusement des tâches qu'exigent ses fonctions, mais en vertu d'un accord tacite avec le Quai d'Orsay, il consacre ses après-midi à ses recherches. Dès que celles-ci sont achevées, il met fin sans regret à sa brève carrière diplomatique comme à son expatriation. Rentré à Paris fin 1947, il se fait élire à l'École des hautes études dans une chaire intitulée « Religion des peuples non civilisés », dont il changera bientôt le nom en « Religion comparée des peuples sans écriture ». Puis il publie enfin le grand livre sur lequel il travaillait depuis tant d'années, intitulé « Les structures élémentaires de la parenté ». Il contient une analyse des coutumes matrimoniales dans diverses sociétés, énonce quelques principes à portée universelle, ou en tout cas à large portée, et pose les fondements de sa méthode structuraliste. L'ouvrage est salué par Simone de Beauvoir dans les temps modernes comme un événement majeur de la vie intellectuelle. De fait, cette notion de structure contenue dans le titre connaîtra dans les décennies suivantes une indéniable fortune. Elle apparaîtra sous la plume des penseurs les plus éminents et dans les domaines les plus divers, non seulement la linguistique ou l'anthropologie, mais également l'histoire, la psychanalyse, la philosophie. Pour ma génération, il ne fait pas de doute qu'il y eut dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle une phase structuraliste partie de Paris et dont l'influence allait se faire sentir bien au-delà. Certains chercheront même à ériger le structuralisme en Église, avec Lévi-Strauss dans le rôle de pape. Il n'en voudra jamais. Pour lui, le structuralisme ne sera qu'une approche, une méthode, une grille de lecture. C'est sans doute grâce à ce détachement que l'étoile de Lévi-Strauss continuera à briller, bien après que celle du structuralisme eût quitté le firmament des modes. Cette renommée, votre confrère commence déjà à la connaître en 1949. Mais elle est encore toute relative et elle s'accompagne de certaines déconvenues. Des professeurs de sa connaissance l'ayant persuadé de se porter candidat pour une chaire au Collège de France, il essuie un échec. Bien qu'ulcéré, il se laisse convaincre de se présenter de nouveau quelques mois plus tard. Et il est battu une seconde fois. C'en est trop. Il en tire la conclusion qu'il n'a pas d'avenir dans cet univers-là ni au Collège de France, ni dans l'ensemble du monde académique parisien. En cette période de doute, il reçoit des propositions alléchantes pour aller enseigner aux États-Unis. Mais il n'a plus aucune envie de s'expatrier. C'est d'une autre manière qu'il réagira au rejet dont il est victime. Depuis des années, cet amoureux de la littérature éprouvait l'envie d'écrire un roman. Il en avait même choisi le titre, « Triste tropique ». Le moment n'était-il pas venu de s'y lancer ? Il fut encouragé dans cette voie par Monique Roman, sa troisième femme, qu'il avait rencontrée en 1949, qui sera la mère de son second fils, Mathieu, et qui demeurera à ses côtés jusqu'à son dernier jour, 60 ans plus tard. L'ouvrage, tel qu'il parut en 1955 dans la collection Terre humaine, n'était pas, à proprement parler, un roman. Mais l'intention en était indéniablement littéraire. Certains collègues de l'auteur accepteront mal sa liberté de ton. Jamais je n'aurais osé publier un tel livre si j'espérais encore une position universitaire, reconnaîtra-t-il. N'attendant plus rien de tel, il s'était lâché dès la toute première phrase. Je hais les voyages et les explorateurs. Soudain, la France découvrait avec ravissement qu'elle avait un grand écrivain de plus, à la voix singulière. Triste tropique n'était ni un récit d'aventure, ni un journal de bord, ni un document ethnographique, ni un rapport sur l'état de la planète. Mais il était tout cela à la fois. L'impression produite par l'ouvrage fut telle que l'Académie Goncourt s'estima obligée de publier un communiqué pour expliquer qu'elle ne pouvait, hélas, le couronner puisqu'il ne s'agissait pas d'un roman. Écrit par Lévi-Strauss, à un moment où l'horizon lui semblait bouché, ce livre de sainte colère allait paradoxalement lui ouvrir toutes les portes, à commencer par celle du Collège de France. Parrainé par Maurice Merleau-Ponty, il y entre enfin en 1959 pour fonder le Laboratoire d'anthropologie sociale, une appellation qui reflète clairement l'ambition scientifique qu'il a toujours nourri pour sa discipline. C'est un peu aussi ce livre qui lui ouvre les portes de l'Académie française, où il est élu le 24 mai 1973 au fauteuil d'Henri de Monterland. Quelques-uns de vos confrères lui disaient depuis des années qu'il devrait les rejoindre, tel André Chanson, qui était un ami de jeunesse, ou Vladimir d'Ormesson, qu'il avait connu lors de son bref passage au Quai d'Orsay et qui était persuadé qu'une institution comme la vôtre devait accueillir un homme comme lui. C'était également l'opinion de son neveu, Jean d'Ormesson, qui avait connu Lévi-Strauss à l'UNESCO dans les années 50. Il n'était pas encore à l'Académie, mais ce fut lui qui le présenta à Maurice Truon, qui l'encouragea fortement à se porter candidat et entreprit de recueillir des votes en sa faveur. Pendant la période précédant le scrutin, votre futur confrère avait fait part à ceux qui le soutenaient d'une certaine appréhension quant à l'attitude d'un homme qui avait été élu 2 ans plus tôt, Roger Caillois. Lorsqu'on lui apprit que celui-ci, en dépit de la querelle retentissante qu'ils avaient opposée, se montrait favorable à sa candidature, il en fut si touché qu'il exprima le désir que ce soit son ancien adversaire qui le reçoive lui-même sous la coupole au nom de votre compagnie. Les paroles de bienvenue qui lui furent adressées ce jour-là étaient élogieuses, certes, mais Lévi-Strauss éprouva en les écoutant des sentiments mitigés. Il s'attendait forcément à ce que Caillois évoquât leur polémique passée, ne serait-ce que pour dire qu'elle était désormais derrière eux. C'est probablement ce que son confrère avait l'intention de faire. Mais au moment où il se mit à en parler et qu'elle entreprit d'expliquer à son auditoire ce qui avait été l'objet de leur querelle, ce fit comme si l'envie de débattre s'emparait à nouveau de lui. Au point qu'il lança à celui qui l'accueillait, « Les ethnographes s'affairent à préserver ce qui peut être sauvé des mythes et des mœurs, des structures familiales et sociales. Mais oublient-ils qu'elles descendent de sauvages, eux aussi ? Qu'auraient dit à l'époque romaine les ancêtres de ces savants généreux, qui appartenaient peut-être aux tribus les plus rudes des Gaules ou de la Germanie, si des ethnographes de l'époque avaient exigé qu'on les confinât dans leur singularité remarquable, qu'on prît des mesures nécessaires pour que ne fût ni détruite ni saccagée l'originalité de leur culture, qu'on les retint de s'initier aux nouveautés apportées par l'envahisseur, afin qu'ils ne se réveillent pas absorbés dans une civilisation uniforme, utilitaire et sans âme. S'il en avait été ainsi, monsieur, où en serions-nous ? mais s'il y eut de la gêne, elle fut passagère. Pour Lévi-Strauss, ce fut jusqu'à son dernier jour un grand bonheur d'appartenir à l'Académie française. Et plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de dire à quel point ils étaient honorés de se trouver en sa compagnie. Pendant 35 ans, il participa à vos activités. Vos séances du jeudi le consolaient quelque peu du spectacle d'un monde dont l'évolution n'a jamais cessé de l'inquiéter. L'humanité s'installe dans la monoculture, écrivait-il déjà dans Triste Tropique. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. Et à la fin de l'homme nu, en 1970, il incombe à l'homme de vivre et lutter, penser et croire, garder surtout courage, sans que jamais le quitte la certitude inverse, qu'il n'était pas présent autrefois sur Terre, et qu'il ne le sera pas toujours, et qu'avec sa disparition inéluctable de la surface d'une planète elle aussi vouée à la mort, ses labeurs, ses peines, ses joies, ses espoirs et ses œuvres deviendront comme s'ils n'avaient pas existé. Une vision plutôt angoissante, mais qui ne l'empêchait pas d'être serein au milieu de ses proches, dans sa vaste propriété de Lignerolles en Bourgogne. C'est le lieu qu'il préférait à tout autre, à l'écart d'un monde où, pourtant, son prestige ne cessait de grandir. Quand on parle de Lévi-Strauss, on est tenté d'évoquer tous les intellectuels de renom qu'il a côtoyés, ceux qu'il a influencés, ceux qui furent ses amis, ceux qu'il a critiqués ou qui l'ont critiqué, parfois avec virulence, de Brodel à Foucault et de Césaire à Sartre. Permettez-moi cependant, en cette journée dédiée à l'éloge de mon prédécesseur et à son souvenir, de m'arrêter sur un tout autre aspect de sa personnalité, je devrais dire sur de tout autre fréquentation. En contemplant les photos de son séjour au Brésil, qui se trouvent aujourd'hui en couverture de nombreux livres qui lui ont été consacrés, on voit un jeune homme à la barbe noire, au visage strict, au regard intense derrière ses lunettes de professeur, tenant à la main et serrant contre son épaule un petit singe. Lévi-Strauss a écrit que Lucinda, c'est son nom, avait la peau mauve et la fourrure grise, qui lui donnait du lait dans la journée et un peu de whisky le soir, qu'elle vivait cramponnée à sa botte gauche, refusant obstinément de la lâcher, ce qui le forçait à marcher en claudiquant sur de longues distances. En contemplant d'autres photos emblématiques, prises 40 ans plus tard, et que l'on trouve également sur la couverture de nombreux livres et revues, on voit le même visage strict, désormais sans barbe, mais avec des lunettes similaires, un regard identique, et sur l'épaule, un chouka, oiseau de la famille du corbeau. Son compagnon ailé lui avait été offert un jour par un ami qu'il avait recueilli tout petit lors de la réfection de la toiture d'une église. Ces volatiles font d'ordinaire leur nid dans des lieux élevés, ce qui leur vaut d'être nommés les choucas des tours. Lévi-Strauss adopta l'oisillon, mais refusa de le mettre en cage. Lorsqu'il le jugea capable de voler, il lui ouvrit la fenêtre pour le laisser partir. Désormais, chaque fois qu'il sortait dans le parc de sa maison, il appelait le chouka, qui venait aussitôt se poser sur son épaule, et ils faisaient leur promenade ensemble. Quand il fallut rentrer à Paris, à la fin de cet été-là, il confia sa veste au jardinier, en lui demandant de la porter et de déambuler chaque jour dans les mêmes sentiers, dans l'espoir que l'oiseau reprendrait ses habitudes avec lui. Mais le chouka n'est jamais revenu. Ce n'était pas la veste qui l'attirait, c'était Lévi-Strauss. Tel était votre éminent confrère, un homme qui avait le sourire au cœur, plus souvent qu'aux lèvres. Il est vrai qu'il ne se sentait jamais aussi heureux que lorsqu'il se retrouvait en forêt, loin des foules, entouré d'arbres hauts, de blaireaux, de hérons, et qu'il se penchait au-dessus d'une colonie de girolles. Mais même ici, au milieu de vous, il n'était pas toujours conforme à l'image sévère et sobre qu'on avait de lui, et qu'il avait sans doute contribué à peindre. Il pouvait se montrer malicieux et pratiquer volontiers l'autodérision. Ainsi, le 10 juin 2004, en sa 96e année, et alors qu'il occupait les fonctions de chancelier de l'Académie, il fit porter par l'huissier un billet à Jean Dutour, qui y découvrit ce quatrain. « Privé de pouvoir écouter les lazzi de mon camarade, je me morfonds sur cette estrade où m'appelle l'ancienneté. » Réponse par la même voix de son complice. Encore que, pour un moment, vous soyez devenu Dieu l'art, il n'est aucun éloignement, camarade, qui nous sépare. C'est le 30 octobre 2009 que Claude Lévi-Strauss fut séparé de ses camarades, de sa famille et de tous ceux qu'il aimait. Un an plus tôt, on avait célébré, en France et ailleurs, dans la solennité, son 100e anniversaire. C'était un peu comme s'il entrait au panthéon de son vivant. Jusque-là, aucun de vos confrères n'avait taquiné l'immortalité d'aussi près. Mesdames et messieurs de l'Académie, quand on a le privilège d'être reçu au sein d'une famille comme la vôtre, on n'arrive pas les mains vides. Et si on est l'invité levantin que je suis, on arrive même les bras chargés. Par gratitude envers la France, comme envers le Liban, j'apporterai avec moi tout ce que mes deux patries m'ont donné. Mes origines, mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que tout peut-être, mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. Ces rêves sont aujourd'hui malmenés. Un mur s'élève en Méditerranée entre les univers culturels dont je me réclame. Ce mur, je n'ai pas l'intention de l'enjamber pour passer d'une rive à l'autre. Ce mur de la détestation entre Européens et Africains, entre Occident et Islam, entre Juifs et Arabes, mon ambition est de le saper et de contribuer à le démolir. Telle a toujours été ma raison de vivre, ma raison d'écrire, et je la poursuivrai au sein de votre compagnie, sous l'ombre protectrice de nos aînés, sous le regard lucide de Lévi-Strauss.
Surtout, monsieur, ne prenez pas ombrage de ce que l'Académie ait désigné le Benjamin de ses membres pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas un manque de considération, mais au contraire une faveur qui nous est faite à tous les deux. Certes, cette compagnie a établi des règles strictes pour choisir celle ou celui qui accueillera un nouveau confrère, mais elle s'autorise à s'en affranchir quand elle le juge nécessaire. Elle substitue alors au protocole un autre critère, plus difficile à définir, appelons-le la sympathie, l'amitié, la complicité intellectuelle. Mes confrères m'ont désigné pour vous recevoir parce qu'ils connaissent notre proximité. Ils savent que nos routes se sont croisées bien souvent depuis notre première rencontre. C'était il y a plus de 25 ans. Vous présentiez alors un de vos plus beaux livres, Léon l'Africain, qui allait connaître un succès mondial. Chez le même éditeur, je publiais un essai beaucoup plus confidentiel consacré à l'action humanitaire. Dès cette époque, en vous lisant, en vous observant, en apprenant à vous connaître, j'ai compris qu'il était possible, par le moyen du roman, de toucher un large public sans sacrifier la qualité de son œuvre. Vous m'avez convaincu que le roman, dans la belle forme classique à laquelle vous vous montrez fidèle, reste plus que jamais un outil incomparable pour parler du monde. Outil d'autant plus efficace qu'il est paradoxal. Par l'artifice de la fiction, il dégage une forme suprême de vérité humaine. Par la mise en scène d'actions particulières, il atteint des réalités universelles. Par la magie du style et de la langue, il permet de prendre conscience de l'impensé du monde et de l'expérience. Ainsi, sans le savoir, vous m'avez décidé à franchir ce Rubicon des écrivains qu'est le passage à la fiction. C'est en suivant votre exemple que je suis devenu romancier. Nos sources d'inspiration sont proches, quoique inverses. Vous scrutez le parcours des hommes de l'Orient, partis à la rencontre du monde et qui découvrent les forces et les faiblesses des civilisations occidentales. J'ai plus souvent mis en scène des personnages qui, comme moi, sont issus d'Europe et qui partent à la découverte des autres et d'eux-mêmes à travers l'expérience bouleversante de l'Orient, de l'Afrique et de ces contrées que l'on nommait joliment l'outre-mer avant que ce terme ne devienne une sèche entité administrative. Si nos chemins se sont souvent croisés, ceux de nos personnages l'ont fait encore davantage. Nos vies sont restées distinctes, mais j'ai parfois l'impression que nos rêves ont fait de nous plus que des amis, des frères. Cependant, tout au long de ces années, je n'ai pas un instant cessé de vous considérer comme une référence et un aîné. Jamais je n'aurais pensé que nous siégerions un jour ensemble sous cette coupole, ni surtout que me serait réservé l'honneur de vous y recevoir. L'inverse m'eût à vrai dire beaucoup moins étonné. Mais puisque le sort n'en a pas décidé ainsi, qu'au moins la longue amitié qui nous lie me serve à tracer de vous un portrait plus précis et plus conforme à votre nature profonde que ne saurait le faire sans doute quelqu'un qui vous aurait moins longtemps observé. Grâce aux innombrables traductions de vos ouvrages, le monde entier vous connaît, monsieur. Mais qu'on me permette de dire qu'il vous connaît mal. On ne retient de votre vie que quelques éléments biographiques infatigablement répétés d'un article à l'autre. Je résume cette vulgate. Né à Beyrouth en 1949, vous êtes un écrivain d'origine libanaise et de confession chrétienne, marié et père de 3 enfants. Vous vivez en France depuis 1976 et vous avez d'abord exercé le métier de journaliste. Ceux qui veulent pousser plus loin leurs investigations ajoutent que vous êtes un homme d'une parfaite courtoisie et d'une grande équanimité, qu'après avoir parcouru le monde, vous donnez votre préférence à une vie sédentaire, que vous vous abstenez de toute intrusion directe dans la politique, que ce soit pour soutenir un parti ou pour commenter l'actualité à chaud, et qu'à l'agitation du monde et de Paris, vous préférez le calme séjour d'une île de l'Atlantique. Vous vous êtes toujours contenté de ces approximations, comme si ces quelques révélations vous permettaient, tout en devenant un homme célèbre, de jeter un voile sur l'essentiel. Vos confidences, vos secrets, l'intimité de votre âme et de vos sentiments, vous ne les livrez que par le moyen distancié et maîtrisé de la littérature. En d'autres termes, pour vous connaître mieux, il faut vous lire. Tout en vous devient alors plus riche, plus complexe, et plus contradictoire que votre biographie simplifiée ne le laisse supposer. Commençons par le Liban. La présence sous cette coupole du ministre de la Culture et de l'ambassadeur du Liban, ainsi que de tant de vos compatriotes, atteste, s'il en était besoin, que vous êtes bien un fils de ce pays. Est-il pour autant suffisant de s'arrêter à cette origine pour vous définir ? Certainement pas. Car s'agissant du Proche-Orient, le mot attribué à Truman prend tout son sens. « Si vous avez les idées claires, disait-il, c'est que vous êtes mal informé. » Rappelons que l'État libanais, dans ses frontières actuelles, est une entité récente. Il date seulement de 1920. C'est sous le mandat français que la montagne libanaise, province autonome de l'Empire ottoman, a été réunie avec Beyrouth, Tripoli, Saïda, Tyr et la plaine de la Beka pour constituer le Liban. Cette création est bien proche au regard des siècles de mémoire que chacun conserve en lui dans ces régions. Vous montrez, à propos de vos grands-parents, combien les appartenances diverses qui coexistaient dans leur esprit étaient plus complexes que la simple identité libanaise. Leur État, dites-vous, était la Turquie. Leur langue était l'arabe. Leur province était la Syrie. Et leur patrie, la montagne libanaise. Il y a 100 ans à peine, les chrétiens du Liban se disaient volontiers syriens, les Syriens se cherchaient un roi du côté de la Mecque, les Juifs de Terre Sainte se proclamaient palestiniens et mon grand-père Botros se voulait citoyen ottoman. Pas un seul des États de l'actuel Proche-Orient n'existait encore et le nom même de cette région n'avait pas encore été inventé. Et vous ajoutez avec mélancolie, « Depuis, beaucoup de gens sont morts pour des patries prétendument éternelles, et beaucoup mourront demain. » Dans cette géographie mouvante, vos véritables attachements sont doubles, à la fois plus réduits et plus vastes. Il y a d'une part le point fixe de vos origines, la montagne libanaise, et plus précisément le petit village d'où votre lignée est issue. D'autre part, les innombrables villes disséminées à travers le monde dans lesquelles vous-même ou des personnes de votre famille ont vécu ou vivent encore. Votre village, d'abord. Il porte le nom de Mashra, un vocable araméen à la signification inconnue. C'est un pan de montagne verticale, où les sentiers sont raides, et où, dites-vous joliment, aucune maison ne vit à l'ombre de l'autre. Ce coin de la montagne libanaise est marqué par une histoire singulière. Il était au 7e siècle, le sanctuaire de ceux que l'on appelait les princes brigands, des hommes vaillants, qui, retranchés dans leurs villages imprenables, tenaient tête aux plus puissants empires du moment. Ces chrétiens faisaient payer au calife de Damas un tribut, alors que partout ailleurs, c'était lui qui imposait un tribut aux gens du livre. Vous êtes fiers de partager avec ces princes étrangers aujourd'hui disparus ce que vous appelez l'hérédité des pierres. En tout cas, Machra vous a marqué profondément. Vous en rêviez pendant votre enfance citadine. Vous êtes heureux d'y posséder toujours une maison familiale. Et où que vous alliez, vous portez en vous les souvenirs de cette terre aride de montagne. Mais en même temps, dans votre imaginaire d'enfant résonnaient bien d'autres noms. Des noms qui ouvraient vos rêves sur le vaste monde. En effet, si vous êtes issu des deux côtés de lignées originaires de la montagne, ces familles avaient l'une comme l'autre essaimé dans l'Empire ottoman et bien au-delà. Du côté maternel, vous viennent deux patries égarées. Istanbul d'abord, ville que vous mentionnez dans chacun de vos livres. Votre mère vous a souvent parlé de la belle maison abandonnée en hâte quand il avait fallu fuir la Turquie. Il vous semble l'avoir toujours connue et vous en arriveriez presque à oublier que votre famille l'a quittée avant la guerre de 14. « Ma vie a commencé, dit Ossiane, le héros de votre roman « Les échelles du Levant », un demi-siècle avant ma naissance, dans une chambre que je n'ai jamais visitée sur les rives du Bosphore. » Cette confidence vaut également pour vous-même. Une autre ville qui vous sert de référence est le Caire, plus précisément Héliopolis, la cité construite par le baron Empin, où votre grand-père maternel, fils d'un simple paysan, avait fait fortune dans le commerce. Du côté paternel, l'aventure était plus lointaine encore, et avait conduit vos ancêtres jusqu'à Cuba et aux États-Unis. Si l'on s'en tient à votre patronyme, on retrouve des Malouf bien plus loin encore, au Brésil en particulier, où l'un d'eux fut même candidat à la présidence de la République à la fin du XIXe siècle. Cependant, il ne faut pas trop se fier à ces homonymies. Le nom de Malouf est un nom de tribu, beaucoup plus large qu'un nom de famille. Ceux que vous appelez les vôtres, pour nombreux qu'ils soient, ne représente qu'une partie du trop vaste ensemble des Malouf et vous prenez soin de les en distinguer. Quoi qu'il en soit, l'expansion de votre famille directe est large et vous vous êtes nourri très tôt du récit de cette diaspora. Vous avez rêvé sur les villes dans lesquelles vos grands-parents, oncles et cousins s'étaient fixés. Dans chacun de ces lieux, des membres de votre famille ont bâti des fortunes, construit des maisons, dirigé des écoles, des entreprises et même des sectes. Et partout, ils ont connu la ruine, les guerres, les révolutions. Ils ont pour la plupart tout perdu, mais leurs souvenirs sont vivants. Ils ont fait de vous un exilé avant l'exil, quelqu'un qui a toujours su de science certaine qu'aucun empire n'est universel, qu'aucune fortune n'est acquise. Ce double mélange d'enracinement extrême dans une terre et de conscience qu'aucun attachement n'est durable vous rend bien proche de ces princes brigands qui pourtant n'étaient pas vos ancêtres. La montagne, dites-vous, n'était pas plus à eux qu'aux autres. C'était juste un écrin pour leur précieuse dignité. Ils pouvaient l'arroser un jour de leur sang et le lendemain, sans état d'âme, la quitter. L'installation de votre famille à Beyrouth date de 1935. C'est un premier départ, un premier arrachement, mais qui n'est pas encore complet. La capitale est un entre-deux. Ce n'est plus la montagne, même si elle est proche encore et s'il est possible de s'y rendre chaque fin de semaine. Ce n'est pas encore l'étranger, mais le brassage des peuples y est spectaculaire et la proximité de la Méditerranée invite en rêve à tous les voyages. Dans vos premières années, vous habitez le quartier du Cap, que l'on nomme Ras Beyrouth. Votre maison est si près du grand phare que son faisceau la nuit balaie votre chambre d'enfant et vous envoie de mystérieux signaux venus d'autres mondes. Votre père est un journaliste de premier plan. Il écrit, et ses poèmes lui vaudront estime et notoriété. Il est l'auteur notamment d'un poème que l'on chante ou récite au Liban et dans tout le Moyen-Orient à l'occasion de la fête des mères. Vos trois sœurs étudient à l'école des religieuses de Besançon et vous, chez les pères jésuites. Vous vivez, dites-vous, l'existence privilégiée d'un petit mâle oriental, comblé de faveurs et qui avait l'impression pendant sa première enfance d'être le maître du monde. Mais à mesure que vous preniez conscience de ce monde, vous y découvrez l'injustice et vous mesurez tout l'inconfort d'une société fortement communautaire dans laquelle vous appartenez à une minorité. Les injustices vous révoltent. Adolescent, vous lisez Marx. Vous avez de la sympathie pour les peuples en lutte. Vous aidez des militants érythréens ou sud-africains de passage à Beyrouth. Et vous recevez même un jour dans votre chambre un petit homme timide et moustachu, Olivier Tambo, le fondateur de l'ANC. En même temps, vous êtes fier le soir de vous mêler aux ministres et aux ambassadeurs qui viennent dîner avec vos parents. un minoritaire, confierez-vous plus tard à votre traducteur italien, oscille constamment entre le désir d'être reconnu et celui de hurler sa révolte à la face du monde. Vous vous engagez finalement dans le journalisme. Vous entrez dans ce grand et beau quotidien qui se nomme Annahar. Vous rencontrez votre épouse André, qui étudie alors la psychologie. Vous vous mariez et vos trois enfants naissent à Beyrouth. En même temps, vous commencez une carrière de reporter qui vous mène dans le monde entier, notamment auprès de ces mouvements rebelles qui vous fascinent tant. La contradiction n'a jamais été aussi forte qu'en cette période entre l'enracinement au Liban que vous apporte cette nouvelle famille et l'appel du monde. Cet équilibre instable, je ne sais pas combien de temps vous auriez pu le tenir. Nul ne le saura jamais, puisqu'un événement majeur va venir le rompre. Cet événement, c'est la guerre. Le hasard veut qu'elle commence en 1975 par un massacre commis juste sous vos fenêtres. Vous partez pour Paris. Vous y trouvez du travail immédiatement et vous devenez rédacteur en chef de Jeune Afrique. La guerre s'installe. Elle durera jusqu'en 1990 si l'on prend comme repère les accords de Taif. Mais à certains égards, la situation reste toujours explosive et les événements qui se déroulent actuellement en Syrie ne sont pas pour nous rassurer. Quoi qu'il en soit, vous comprenez vite que la guerre des deux ans n'est qu'un leurre et que la violence va durer. Votre famille vous rejoint, une nouvelle vie s'ouvre qui s'appelle l'exil. C'est une souffrance, bien sûr, mais à laquelle se mêle un autre sentiment, la délivrance peut-être. Que l'on comprenne bien, une grande partie du chemin de l'exil avait déjà été accomplie avant cet exil véritable. Comme vous l'écrivez, il m'arrive de penser qu'il a été plus facile pour moi de passer de Beyrouth à Paris que pour mon père de passer de son village à Beyrouth. Me trompais-je en avançant que votre identité nouvelle de Libanais en exil est plus facile à porter que celle de minoritaire exilé de sa patrie de montagne dans son propre pays et soumis à la subtile mais implacable dictature des communautés. Le Liban, entité complexe et dont nous avons vu combien elle est réductrice par rapport à vos origines, devient dès lors une référence confortable. Pour les Français au milieu desquels vous vivez désormais et qui n'ont guère de compétences en matière de subtilité orientale, vous êtes tout simplement un Libanais. Vous observez la guerre à distance. Et cette distance, si elle vous protège, ajoute encore à la rage et à l'impuissance que vous pouvez ressentir. L'équilibre des communautés était subtil avant la guerre. Vous avez pu le ressentir comme pesant, mais dès lors qu'il est rompu, il apparaît comme un paradis perdu, un temps d'harmonie qui a laissé place à la violence extrême, à la barbarie. Toutes les nouvelles du Liban vous font souffrir. Vos sentiments à cette époque sont, au sens propre, indicibles. Vous mettrez bien des années à pouvoir les exprimer. À l'horreur que suscite le présent, vous ne trouvez qu'un antidote, l'évocation nostalgique du passé, la remémoration douce des temps heureux. Vous avez quitté votre pays, mais vous l'avez emporté dans votre cœur. Ce pays rêvé devient votre refuge, un territoire intérieur que vous ne cesserez d'explorer dans votre œuvre. Parmi tous les malheurs qu'a engendré cette guerre, il y eut au moins ce grand bonheur, celui d'avoir donné au monde un écrivain. La question centrale est maintenant de comprendre comment s'est opérée cette transformation. Comment vous êtes passé de la nostalgie à la création, du deuil à la renaissance littéraire. Un tel chemin ne s'est pas fait en un jour. Au principe de ce long processus, il y a toujours un mystère, et seule la poésie peut-être permet de l'approcher. Je pense à ce propos à un court poème de Nadia Tueni, la défunte épouse de Rassane Tueni, ancien directeur d'Annahar. Je voudrais dire d'ailleurs qu'au moment où je terminais ce discours et où la semaine dernière je le lisais à mes confrères, en ce moment précis, Rassane Tueni a quitté le monde à son tour. Qu'il me soit permis sous cette coupole de saluer la mémoire de cet homme de grande culture et de grand courage. Voici maintenant ce qu'écrivait Nadia Tueni dans un poème rédigé à Beyrouth pendant les heures terribles du déchirement et de la violence. Fenêtre ouverte sur la guerre, et dessus l'horizon un duel de couleurs. La mer se cache dans ses eaux, le vent est un fardeau de prince, mais la lampe et la nuit s'en vont en chuchotant. Écoute la respiration des mémoires. Écoute la respiration des mémoires. Voilà en effet ce que vous n'avez plus cessé de faire. Au début, le murmure est indistinct. Il mêle d'innombrables voix et donne seulement lieu à de longues rêveries. Vous ébauchez des plans de livres, vous songez à divers moyens d'exprimer ce qui n'est encore en vous que le chuchotement mystérieux de la création. Moins qu'une respiration, moins qu'un souffle. Ceux qui l'entendent doivent apprendre à l'apprivoiser, à l'amplifier, jusqu'à ce qu'elle devienne une voix claire et qui ne leur fait plus peur. Il y faut du temps et parfois de la chance, une rencontre. Un jour, en discutant avec Renaud de Rochebrune, journaliste et éditeur, vous décidez de travailler sur les sources arabes concernant les croisades. C'est un domaine presque vierge, un immense défi. Vous vous la plongez dans ces riches chroniques arabes. Vous exhumez des textes inconnus, vous les traduisez, vous les mettez en forme. Le résultat sera « Les croisades vues par les Arabes », votre premier livre, immédiatement devenu classique, traduit en d'innombrables langues. Ce livre épouse volontairement le point de vue de ceux qui ont été les oubliés de l'histoire chrétienne des croisades, les Arabes et les Turcs, guerriers, princes ou simples témoins. En faisant pivoter le regard, on se rend compte alors que la barbarie change de camp, la peur et la civilisation aussi. L'infidèle acquiert une voix, des sentiments, une dignité. Cette approche paraît aujourd'hui totalement légitime. Vous avez contribué à élargir notre vision et à nous faire entendre l'autre. Mais au moment où le livre est publié, certains pourront en être choqués et vous juger de parti pris. C'est bon signe. Il n'y a pas de progrès de cette sorte sans résistance ni combat d'arrière-garde. Quoi qu'il en soit, laissez et transformez, vous êtes lus et compris. Ce ne sont pas d'ailleurs seulement les idées qui sont saluées, mais la facture de l'ouvrage, son style, sa puissance narrative, sa puissance d'évocation. Ce n'est pas encore un roman, mais chacun sent que vous en êtes tout proche. Ce succès vous conforte dans une conviction. C'est bien par l'écrit que passera votre création. Vos œuvres seront des écrits et vos sources, les traces écrites du passé, chroniques, légendes, poèmes, correspondances. Vous êtes fiers d'appartenir à la tradition millénaire du livre. Vous avez des mots très durs à l'égard de ceux que vous appelez des coloniaux repentis qui s'extasient sur la tradition orale des peuples. Moi, proclamez-vous, je ne vénère que l'écrit. Sous ce rapport, monsieur, vous ne pouviez pas rêver mieux que cette académie. Nous aussi, voyez-vous, nous vénérons l'écrit. Depuis bientôt 4 siècles, les empires peuvent s'écrouler et le feu du ciel s'abattre sur les hommes. Vous nous trouverez chaque jeudi, penchés sur les mots, comme des chirurgiens sur un ventre ouvert, taillant et retaillant imperturbablement leur définition. La matière riche des chroniques arabes vous incite tout naturellement à passer au roman. Léon l'Africain, personnage inventé pendant vos recherches, est un grand voyageur d'Orient auquel vous vous identifiez sans difficulté. Vous reconstituez son parcours et vous lui donnez vie dans un texte d'une grande unité stylistique. On sent que vous en éprouvez un grand bonheur et le public unanimement le partage. Vous êtes devenu un écrivain. Votre production littéraire devient bientôt régulière et d'une égale qualité. Vous explorez les thèmes de l'exil, du métissage culturel, de l'identité, de l'affiliation. Vous ne cessez de faire dialoguer l'Orient et l'Occident. En une dizaine d'années, vont paraître une suite de romans qui donnent la pleine mesure de votre talent. Leur facture est classique. Vous êtes un conteur. Et vous vous situez dans la double tradition qui fait de la narration le point de rencontre de l'Orient et de l'Occident. Entre conteurs arabes ou persans, et grand romancier français du XIXe siècle, existe une subtile parenté dans laquelle vous vous reconnaissez. Vous obtenez toutes les reconnaissances littéraires en France et une audience internationale incomparable. Au-delà des thèmes que vos œuvres développent, l'essentiel, ce qui en fait la saveur et la profondeur, c'est leur couleur, leur humanité, leur richesse de construction et leur poésie. Pour chaque roman, vous adoptez un style différent, même si certains caractères les unissent. On y retrouve notamment votre goût pour les sources écrites. Tantôt dans Léon l'Africain, le texte lui-même ressemble à une chronique orientale. Tantôt, comme dans Le Rocher de Tanios, le récit rebondit sur des citations empruntées à de vieux grimoires, à des notes rédigées par un mystérieux moine ou un pasteur anglais. Parfois, c'est un texte qui est lui-même au centre du livre, comme le mystérieux manuscrit qui contient le 100e nom de Dieu à la poursuite duquel se lance Baldassare. Les mémoires dont vous nous faites sentir la respiration dans ces romans sont de diverses origines. Dans Léon l'Africain, vous vous inspirez tout à la fois des récits de voyages arabes et de vos propres souvenirs de journaliste reporter. Léon l'Africain, c'est un entêtant mélange d'Ibn Battuta et du Montesquieu des lettres persanes. Dans Samarcande, vous faites renaître sous nos yeux de grands hommes du Moyen-Âge comme Omar Khayyam ou Hassan Sabah. Par leur intermédiaire, vous réhabilitez la plus haute tradition artistique, littéraire et scientifique des pays du Levant. Mais en même temps, vous posez déjà la question lancinante qui divisera vos ancêtres. D'où provient le déclin de l'Orient? Ou pour le dire comme le grand historien de l'islam que fut Bernard Lewis, que s'est-il passé? Dans Les Échelles du Levant, votre roman le plus contemporain, puisqu'il relate une rencontre et des confessions recueillies en 1976, un homme évoque l'histoire du terrible XXe siècle, la chute de l'Empire ottoman, la Seconde Guerre mondiale et les déchirements de 1948. Ici encore, on perçoit l'écho d'une mémoire qui ne vous est pas étrangère. Ossiane, le héros, tire la conclusion la plus logique de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut mettre fin à la haine, transcender les races, les religions, les origines. Lui, le fils d'une illustre famille de l'époque ottomane, il épouse une femme juive et par ce geste, jette un pont entre les communautés. Hélas, l'histoire au lendemain de la guerre va séparer le couple et reconstruire au Moyen-Orient les frontières et les haines qui ont coûté si cher à l'Europe pendant les années noires de la guerre mondiale. Ossiane a raison, et pourtant l'histoire lui donne tort. Ce thème est si présent en vous qu'on le retrouve dans le prologue de votre prochain livre « Les Désorientés ». « Quand viendra mon tour, s'écrie le héros Adam, je tomberai comme un tronc sans avoir plié et en répétant à qui voudra l'entendre, c'est moi qui ai raison et c'est l'histoire qui a tort. » Dans Le Rocher de Tanios, qui vous a valu le prix Goncourt en 1993, vous racontez l'histoire d'un jeune homme, Tanios, fils bâtard d'un cheikh de la montagne, cher chrétien, il faut le préciser. Amoureux de la fille de l'ancien intendant du cher, il se voit refuser de sa main à cause des intrigues du patriarche. Après le meurtre du patriarche, le père de Tanios, qui est son père officiel mais qui n'est que le mari trompé de sa femme, s'enfuir avec son fils qui n'est pas son fils, enfin je préfère espérer que vous avez tous lu ce beau livre, faute de quoi mes explications doivent paraître embrouillées, l'essentiel n'est pas là. Je ne tenterai pas de résumer le subtil équilibre des personnages de ce livre qui compose un tableau riche des contradictions du Moyen-Orient de l'époque et aussi d'aujourd'hui. Mon propos vise seulement à cerner les sources de votre inspiration. À cet égard, Le Rocher de Tanios est sans doute de tous vos romans celui qui contient le plus d'éléments tirés de votre histoire familiale. Les mémoires dont vous nous faites entendre le souffle dans ce livre sont bien celles de vos ancêtres. Cependant, à cette époque, vous êtes encore réticent à nous l'avouer, et peut-être à vous l'avouer à vous-même. Dans une courte note à la fin du livre, vous nous lancez sur une fausse piste. Vous évoquez un dénommé Malouf, qui se serait rendu coupable au XIXe siècle de l'assassinat d'un patriarche et qui aurait été ramené dans son village, comme Tanios et son père, par le moyen d'une ruse. J'ai déjà dit que votre patrimoine n'est en rien spécifique de votre famille en particulier. Il y a fort à parier que le Malouf Kirsch en question n'a rien à voir avec vous. Mais Tanios, lui, a tout à fait les traits d'un de vos aïeux, celui qui s'est pour la première fois converti à la religion presbytérienne. Un jour, ces ressemblances romanesques ne vous ont plus suffi. Vous avez senti la nécessité d'écrire enfin le grand récit de vos racines familiales. Ce livre majeur, fruit d'un immense travail de décryptage d'archives et de voyages, paraîtra en 2004 sous le titre « Origine ». Il reconstitue la vie de votre grand-père paternel, Botros, et celui de son frère Jébraïel, partis faire fortune à la Havane, et de leur génération. Ce livre marque un tournant dans votre œuvre. Après lui, pendant près de 10 ans, vous n'avez plus écrit de roman, comme si vous aviez atteint, à cette profondeur, la source même de votre inspiration. Et de fait, ce livre n'est pas un livre, mais bien plus. Je pense qu'il représente la forme la plus achevée de votre entreprise littéraire, celle qui embrasse et transcende toutes les autres. Pour le comprendre et vous comprendre, il faut vous laisser la parole. « Certains penseront, écrivez-vous, quel besoin avons-nous de connaître nos aïeuls et bisaïeuls ? Aucun besoin pour nous, il est vrai, de connaître nos origines. Chacun traverse les années qui lui sont imparties, puis s'en va dormir dans sa tombe. Mais alors, si tout est destiné à l'oubli, pourquoi bâtissons-nous et pourquoi nos ancêtres ont-ils bâti? Pourquoi écrivons-nous et pourquoi ont-ils écrit? Oui, dans ce cas, pourquoi planter des arbres et pourquoi enfanter? À quoi bon lutter pour une cause? À quoi bon parler de progrès, d'évolution, d'humanité, d'avenir? À trop privilégier l'instant vécu, on se laisse assiéger par un océan de mort. À l'inverse, en ranimant le temps révolu, on élargit l'espace de vie. Et vous poursuivez. Quand mon grand-père avait eu, à la fin des années 1880, le courage de désobéir à ses parents pour aller poursuivre ses études dans une école lointaine, c'est à moi qu'il était en train d'ouvrir les chemins du savoir. Et s'il a laissé avant de mourir toutes ses traces, tous ses textes en vers et en prose, toutes ses lettres et tous ses cahiers datés, n'est-ce pas pour que quelqu'un s'en préoccupe un jour? Bien sûr, il ne pensait pas à l'individu précis que je suis, moi qui ai vu le jour un quart de siècle après sa mort, mais il espérait quelqu'un. Et puis de toute manière, peu importe ce qu'il avait pu espérer lui-même, du moment que les seules traces de sa vie sont aujourd'hui dans mes mains, il n'est plus question que je les laisse mourir d'oubli. Je suis le fils de chacun de mes ancêtres, et mon destin, concluez-vous, est d'être en retour leur géniteur tardif. Écoute la respiration des mémoires. Nous y sommes. Je tiens origine pour votre plus grande œuvre. C'est en tout cas celle qui permet de mesurer combien votre biographie résumée est simpliste et manque à vous définir. Sur bien des points, elle permet une compréhension plus subtile de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. La religion, par exemple. On vous décrit en général comme chrétien. Pour la plupart des étrangers, la question libanaise au Liban, la question religieuse au Liban se réduit à la confrontation musulman-chrétien. Mais en lisant l'histoire de ceux que vous appelez les vôtres, on mesure mieux la complexité du sujet religieux. Au sein des chrétiens existent bien des groupes. Si de votre côté maternel, on est assez uniformément maronite, du côté paternel, on trouve des presbytériens, des catholiques romains, des grecs catholiques, des orthodoxes et aussi une part minoritaire, mais importante, d'athées et de francs-maçons. Cette dispersion religieuse, et en particulier la présence d'une branche presbytérienne, ne doit rien au hasard. Elle est la conséquence directe des déchirements de l'histoire et des rivalités européennes dans la montagne libanaise, dont la montagne libanaise fut l'enjeu au XIXe siècle. Comme vous l'expliquez dans le rocher de Tanyos, en ces années-là, les chancelleries européennes étaient préoccupées par un événement exceptionnel. Mehmet Ali Pacha, vice-roi d'Égypte, avait entrepris de bâtir en Orient, sur les décombres de l'Empire ottoman, une nouvelle puissance qui devait s'étendre des Balkans jusqu'aux sources du Nil et contrôler la route des Indes. De cela, les Anglais ne voulaient à aucun prix. Les Français, en revanche, voyaient Mehmet Ali, l'homme providentiel qui allait sortir l'Orient de sa léthargie et bâtir une Égypte nouvelle en prenant justement la France comme modèle. Il avait fait venir des médecins français, des ingénieurs français, et il avait même nommé à l'état-major de son armée un ancien officier de Napoléon. Décidément, ce pacha avait tout pour plaire aux Français. Et puis s'il irritait à ce point les Anglais, il ne pouvait être foncièrement mauvais. Cet empire en voie de constitution avait deux ailes, l'une au nord, les Balkans et l'Asie mineure, l'autre au sud, l'Égypte et ses dépendances. Entre les deux, une seule liaison, par la longue route qui allait de Gaza à Alexandrette. Il s'agissait d'une bande de terre enserrée entre la mer et la montagne. Si cette dernière bande échappait au contrôle du vice-roi, la route deviendrait impraticable, le nouvel empire serait coupé en deux, morné. Et du jour au lendemain, toutes les chancelleries n'eurent plus lieu que pour ce coin de montagne. On n'avait jamais vu autant de missionnaires, de négociants, de peintres, de poètes, de médecins, de dames excentriques et d'amateurs de vieilles pierres. Les montagnards étaient flattés. Et lorsqu'ils comprirent un peu plus tard que les Anglais et les Français se faisaient la guerre chez eux pour ne pas avoir à se battre sur leur propre sol, ils n'en furent que plus flattés encore. Privilège dévastateur, mais privilège quand même. Je ferme les guillemets. La politique anglaise est la raison directe de la présence dans la montagne d'écoles presbytériennes. La conversion d'un de vos ancêtres à cette religion traduit à la fois un puissant désir de modernisation et le choix de la voie anglo-saxonne pour y parvenir. D'autres, admirateurs de la Révolution française, choisiront la fidélité au catholicisme et à la langue de Molière. On comprend ainsi que votre éducation chez les pères jésuites français n'a en fait rien de naturel. C'est le fruit d'un combat gagné par la famille de votre mère pour faire prévaloir la tradition catholique sur les errements religieux de votre famille paternelle. Cette question religieuse influence aussi celle des langues. Si vous avez appris le français dans votre enfance, c'était dans le même dessein maternel de vous tenir éloigné de l'anglais, beaucoup plus courant jusque-là dans votre famille, mais qui vous aurait exposé aux corruptions démoniaques du protestantisme anglo-saxon. Des rivalités géopolitiques d'un autre temps continuent, comme les répliques d'un séisme, à exercer leurs effets sur les choix éducatifs et linguistiques des familles. Et tout cela s'inscrit dans une conscience, la vôtre, qui en a recueilli l'héritage. Un autre sujet s'éclaire à cette lecture, c'est la question de l'exil. On fait du vôtre une simple conséquence de la guerre. Mais à reconstituer les dilemmes de vos grands-pères, vous montrez que la question « rester ou partir » se pose en Orient depuis bien plus longtemps. Les deux frères Botros et Gébraïel sont emblématiques de ces deux voies. Dès le XIXe siècle, l'un choisira le départ pour le Nouveau Monde, l'autre préférera demeurer sur place et mener le combat qui lui paraît essentiel, celui de l'éducation, en créant à Machra une école universelle qui absorbera toutes ses forces. Un autre lieu commun que cette lecture permet de dépasser est la question de votre prétendue douceur. Vous êtes en effet un homme d'une exquise politesse et qui manifeste en toute occasion beaucoup d'égards pour ceux à qui il s'adresse. Mais calme, mais placide, mais modéré, je ne le croise absolument pas. Vous êtes enthousiaste, ardent à défendre votre dignité et surtout vos idées. Vos passions sont entières et violentes. Elles viennent des profondeurs et sont durables, irréversibles, presque héroïques. Vos amours sont indestructibles, comme celui qui vous lie à votre épouse André depuis près de 40 années. En la matière, vous avez de qui tenir. Qu'on me permette à ce propos d'évoquer la magnifique histoire de votre bisaïeul Thanos. L'épisode se passe en 1860, au moment des grands massacres interconfessionnels. Thanos, votre futur arrière-grand-père, voit passer un jour dans son village de la montagne des cousins éloignés qui ont fui Zarlet pour échapper aux violences. Parmi eux se trouve une jeune fille, Susan. Au premier regard, Thanos tombe amoureux d'elle. La famille rentre à Zarlet et Thanos pense sans cesse à sa belle cousine. Il décide qu'il ne peut pas vivre sans la revoir. Il faut 6 heures de marche sur les mauvais chemins de montagne pour arriver à Zarlet. Thanos les dévale et arrive à la maison de Susan. Mais il n'ose pas avouer à son père qu'il a fait tout ce chemin seulement pour voir la jeune fille. Il prétend qu'il a du travail dans la ville pour quelques jours. « Mais dans ce cas, repasse nous voir demain !» propose le père de Susan. Thanos accepte. Mais en sortant de la maison, il n'a pas d'endroit où passer la nuit. Il doit rentrer au village, ce qui lui prend encore 6 heures, sans aucune autre lumière que celle du clair de lune, dites-vous, et par une route où l'on côtoyait des loups et des hyènes, pour ne pas parler des brigands. Il arriva bien au-delà de minuit et s'endormit comme une masse. Mais à l'aube, il était debout et se remettait en route pour Zarlet. Le manège dura des jours et des jours. 6 heures de marche le matin, 6 heures le soir. Jusqu'à ce que, voyant maigrir et pâlir le jeune soupirant, les parents de la jeune fille finissent par obtenir la vérité. Susan et lui se marieront quelques mois plus tard. Thanos, dites-vous, s'était taillé pour la vie une réputation de fou d'amour. Et vous ajoutez, « J'ai mis longtemps à comprendre la dualité des miens. » Sous une façade de raideur, un bouillonnement qui souvent confine à la folie. Sans aller vous croire atteint de la même folie, je reconnais en vous un bouillonnement souterrain, invisible aux yeux non attentifs, qui se traduit par des amitiés déracinables, des passions entières, un amour conjugal et paternel sans aucune faille. Mais cette vigueur de caractère, elle explose surtout dès que vous traitez des sujets qui vous tiennent à cœur. Vos idées, vous les défendez avec passion, en choisissant chaque mot, comme des fruits mûrs sur un étal. Vous mettez la même ardeur à dénoncer dans un essai brillant les identités meurtrières, à fustiger les retards, les incohérences, les fanatismes de l'Orient, ou à porter votre regard critique sur l'Occident. Car ce serait un tort de voir en vous un admirateur inconditionnel des valeurs occidentales. Il est difficile de ne pas sentir votre adhésion à ces mots que votre grand-père place dans la bouche d'un personnage de l'une de ses tragédies. Les Orientaux, je cite, les Orientaux ont vu que l'Occident les avait dépassés. Mais ils n'ont jamais compris pourquoi c'est arrivé. Un jour, ils voient un Occidental avec une fleur à la boutonnière, Et ils se disent, c'est donc ça la raison de leur avancement, mettons des fleurs à nos boutonnières et nous les rattraperons. Quand comprendrez-vous, dit votre grand-père, qu'il y a des valeurs essentielles et de vulgaires modes. Il ne suffit pas de vouloir imiter l'Occident, encore faut-il savoir en quoi il mérite d'être suivi et en quoi il ne le mérite pas. Dans un essai intitulé « Le dérèglement du monde », vous avez des mots aussi durs pour critiquer vos deux univers culturels. « Ce que je reproche aujourd'hui au monde arabe, dites-vous, c'est l'indigence de sa conscience morale. Ce que je reproche à l'Occident, c'est sa propension à transformer sa conscience morale en instrument de domination. » Voilà une critique forte des aventures militaires menées au nom des droits de l'homme et de l'humanitaire. Vous laissez éclater votre colère tout autant contre le sort fait en Orient aux minorités que contre la manière dont est traité l'immigré en Occident. Et vous nous rappelez constamment au respect des valeurs universelles à la hauteur desquelles nous avons parfois du mal à nous tenir. Vous écrivez cette phrase que je tiens pour visionnaire. La faute séculaire des puissances européennes n'est pas d'avoir voulu imposer leurs valeurs au reste du monde, mais très exactement l'inverse, d'avoir constamment renoncé à respecter leurs propres valeurs dans les rapports avec les peuples dominés. Toute votre œuvre, toute votre pensée, toute votre personnalité est un pont entre deux mondes à l'égard desquels vous ne nourrissez aucune illusion, dont aucun ne doit prévaloir sur l'autre et qui portent chacun leur part de crime, mais aussi de valeurs. Ce sont ces valeurs que vous voulez unir. Soit nous saurons bâtir en ce siècle, dites-vous, une civilisation commune à laquelle chacun puisse s'identifier, soudé par les mêmes valeurs universelles, guidé par une foi puissante en l'aventure humaine et enrichi de toutes nos diversités culturelles, soit nous sombrerons ensemble dans une commune barbarie. Ce propos vaut pour le monde, mais aussi pour la France. Et nous sommes fiers que vous puissiez faire entendre cette voix au sein de notre compagnie. L'Académie a aujourd'hui et aura plus encore demain toute sa place pour incarner et défendre ces valeurs communes dans lesquelles chacun de nos concitoyens doit pouvoir se reconnaître. J'ajoute enfin que votre entrée dans cette Académie a aussi le mérite de mettre un terme à ce qui fut sans doute un malentendu. En signant un manifeste qui défendait la création d'une littérature monde, vous avez marqué vos distances à l'égard du concept d'écrivain francophone. Et certains ont pu croire que cette réserve s'adressait à la francophonie à laquelle nous sommes si unanimement attachés. Vous connaissant mieux désormais, chacun peut comprendre la nature de cette réserve. Vous avez seulement exprimé le point de vue de quelqu'un à qui la vie a enseigné qu'il faut rejeter toutes les exclusions, tous les ghettos. Or, le concept d'écrivain francophone peut en effet être ressenti comme une manière de tenir à distance de la vraie culture française des écrivains nés dans d'autres univers culturels. Pour vous, il n'y a pas de différence à faire, et vous militez pour l'emploi du terme « écrivain de langue française ». C'est un concept plus accueillant et à tous égards plus juste, dans lequel l'Académie s'est depuis longtemps reconnue en s'ouvrant à des hommes comme Léopold Sédar Senghor, François Cheng ou notre cher Hector Bianchotti, pour lequel nous avons aujourd'hui une pensée particulière, pleine de tristesse, de tendresse et de regret. On voit que votre objection est loin de remettre en cause la francophonie et que vous en êtes, vous aussi, en tant qu'écrivain de langue française, un des plus ardents défenseurs. Voilà autant de raisons de nous réjouir de vous compter parmi nous. Nous espérons qu'en retour, cette compagnie stimulera votre œuvre. Et à cet égard, on peut noter comme un excellent présage le fait que le moment où vous prenez place parmi nous marque aussi votre retour à l'écriture romanesque. Vous n'aviez pas abordé directement jusqu'ici le thème de la guerre du Liban, si dramatique et si proche encore, si ce n'est par le biais d'un livret d'opéra. Avec « Les désorientés », votre nouveau roman, vous avez trouvé la force d'explorer ces mémoires douloureuses et vous nous donnez un véritable « War Requiem » pour reprendre le titre de l'œuvre célèbre de Benjamin Britten. C'est une excellente nouvelle et nous nous en réjouissons. Il est vrai, monsieur, que nul n'entre seul ici. Les romanciers viennent avec leurs personnages, les historiens avec leur époque favorite, les poètes avec leurs images. Mais rares sont ceux qu'accompagnent comme vous autant de mondes différents, autant de terres et de mémoires. La seule question que l'on puisse se poser maintenant que nous vous connaissons mieux est de savoir si pour vous accueillir un seul fauteuil suffira. L'idéal, bien sûr, eût été de vous en offrir 40, mais nos traditions nous conduisent hélas à ne vous tendre qu'un seul siège. Heureusement, le hasard a voulu que celui qui vous est réservé soit un des plus ouverts sur le monde. Vous ne vous y sentirez pas à l'étroit. Vous qui vouez un culte aux ancêtres, voici que vous en recevez 18 de plus en héritage. Vous venez d'évoquer longuement le dernier d'entre eux, notre regretté Claude Lévi-Strauss. Parmi eux, vous trouverez aussi Claude Bernard, qui n'aurait pas manqué d'être intéressé par les mystérieuses fèves tueurs de bébés-filles que vous imaginez dans votre roman d'anticipation « Le premier siècle après Béatrice ». Vous y rencontrerez de même Ernest Renan, si attaché au Proche-Orient et à la montagne libanaise où repose sa sœur Henriette. Et vous serez frappé de découvrir parmi vos prédécesseurs un nombre considérable d'hommes marqués par une extrême curiosité, passionnés comme vous par leurs semblables, d'où qu'ils viennent, des hommes engagés aussi. J'allais dire des hommes habitués à se jeter à l'eau, mais ce serait une référence fâcheuse, car en 1635, Pierre Bardin, le premier titulaire de votre fauteuil, s'est précipité dans un étang pour sauver l'homme dont il avait été le précepteur, et il est mort noyé. Prenez garde, dans vos promenades à l'île-Dieu, de ne pas suivre son exemple. Sachez que dans la nouvelle famille qui vous reçoit aujourd'hui, nous tenons à vous. Nous vous accueillons tout entier et sans réserve, multiple comme vous l'êtes. Et nous vous disons, avec une affection dont vous serez étonné de découvrir la profondeur, prenez place parmi nous. Entrez ici avec vos noms, vos langues, vos croyances, vos fureurs, vos égarements, votre encre, votre sang, votre exil. Devenez dès cet instant l'un des nôtres, mais surtout, monsieur, restez vous-même.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie de réception sous la coupole de l'écrivain Amine Malouf. Toutes les réceptions sous la coupole sont retransmises par Canal Académie. Vous pouvez les écouter ou les télécharger librement sur notre site canalacademie.com en tapant le mot-clé « coupole ». Quant aux textes des discours, vous pouvez les lire dans leur intégralité sur le site de l'Académie française.